On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Radio Pont était au Festival littéraire et artistique de Teilhard pour la 11e session qui s'est déroulée du 23 au 25 mars 2018. Et maintenant, pour vous faire découvrir les auteurs, voici l'interview d'un des auteurs que j'ai pu rencontrer. On est avec Dominique Lebrun. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos livres ?
Ceux qui sont sur le stand, le principal, il s'appelle Antarctie 2, le continent qui rendait fou. Alors Antarctie 2 et non pas Antarctique, parce que l'Antarctie 2, c'est l'ensemble composé par le continent antarctique, plus les îles qui sont dans les océans antarctiques et qui sont plus loin. Donc c'est un terme géographique qui nous rappelle Atlantide 2, donc le continent disparu et mystérieux. Et en fait, j'établis une forme de parallèle entre les deux, en ce sens que la découverte de l'Antarctique a été une grande aventure qui a commencé par la recherche du continent austral, qui était mythique, que les Grecs anciens avaient imaginé uniquement par le raisonnement, et qu'ensuite on a cherché pour des raisons plus géographiques, et ça aboutit un jour à la découverte de l'Antarctique, on a enfin pu le toucher, et ensuite on a réussi à atteindre le pôle sud. Ça c'est donc la base de l'histoire de l'Antarctide, le continent qui rendait fou.
Ça a l'air d'être un livre très intéressant aussi, parce qu'il est...
C'est un gros livre, c'est un pavé de 800 pages, dans lequel à la fois je raconte, mais je cite beaucoup de textes et des extraits même souvent assez longs.
D'accord.
Pour expliquer exactement comment les choses se sont passées, notamment dans les choses plus récentes comme l'arrivée au pôle sud, entre donc l'histoire des Anglais, donc le fameux Scott qui va mourir de faim et d'épuisement, à côté des Norvégiens qui eux vont au pôle sud très facilement. On a dit un peu vite que les Norvégiens, oui c'était facile, ils avaient des chiens et ils avaient des traîneaux. Moi, j'explique que les Anglais auraient dû faire pareil, mais n'ont pas voulu pour des raisons qui sont stupides. Moyennant quoi, non seulement ils y sont arrivés, mais n'ont pas pu en revenir, mais c'est uniquement de l'incompétence, et c'est terrible à dire.
Et donc, vous pouvez nous parler de vos autres...
Alors, oui, alors dans les autres sorties l'année dernière, toujours chez le même éditeur, donc les éditions Omnibus, Pirates, Histoire vraie, là, j'ai écrit beaucoup moins, j'ai fait un travail d'enquête pour trouver des textes.
D'accord.
Ça s'appelle « Des barbaresques à l'affaire du Ponant ». Ce sont des témoignages de gens qui soit ont été capturés par des pirates ou bien des témoignages de pirates.
Okay.
Le problème pour trouver ces textes, c'est que des gens qui ont survécu aux pirates, il n'y en a pas beaucoup. En général, on n'en revenait pas pour le raconter. Et vu du côté des pirates, il y avait peu de pirates à savoir écrire. Malgré tout, j'ai trouvé des récits. En ce qui concerne les gens qui ont été capturés par les pirates, ce sont des textes très anciens. En l'occurrence, les gens qui ont été capturés par les barbaresques au XVIIe siècle, qui se retrouvaient sur les galères. On a un texte qui est supposé authentique, mais qui était un peu amélioré, qui est le fameux récit de Ex-Melin, qui avait été chirurgien sur un bateau de pirates. Et c'est parce qu'il était chirurgien qu'il savait écrire et qui s'était engagé comme le pirate. Je raconte l'histoire de Lafitte, ça remonte aux années 1800-1816. C'est quelqu'un qui avait de quoi raconter et qui a témoigné, et son récit était repris par Georges Leblond. Ensuite, on a l'affaire de Von Luckner. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est un bateau de pirates déguisé en navire marchand par la marine allemande et qui capturait des cargos alliés. Et je finis par un texte extraordinaire, qui est une histoire qu'on a tous connue, c'est l'affaire du Ponant qui avait été capturé en 2008 au large de la Somalie, et dont le commandant, Patrick Marchessault, raconte comment il a négocié avec des pirates qui avaient pris le bateau pour éviter un massacre, pour faire venir la rançon, etc., etc. Ce sont des récits que j'accompagne de dossiers techniques pour donner tous les éléments au lecteur pour qu'il comprenne des choses qui ne sont pas évidentes à comprendre d'un point de vue historique, d'un point de vue juridique, savoir ce que c'est que le pirate exactement, ou du point de vue politique, ou du point de vue technique encore. Ça, c'était pour les pirates. Et puis, il y a un autre aspect de ma production qui sont des biographies, une de Vauban, l'autre de Bougainville. Vauban, c'est chez la librairie Vuibert, qui est spécialiste dans les manuels scolaires universitaires. Folio Gallimard, c'est une collection prestigieuse de biographies qui sortent directement en format poche. Ces deux livres, donc, ces biographies Vauban et Bougainville, ont ceci de commun que je ne suis pas historien.
D'accord.
Je suis journaliste de formation, je suis juriste de formation aussi. Donc mon savoir-faire, c'est pas de raconter l'histoire avec des dates, des événements, c'est de prendre position et de faire comprendre ce qui s'est passé. Donc je suis quelqu'un pour qui la notion de date, c'est pas très important, c'est juste chronologique. Ce que je veux faire comprendre, c'est comment un individu est devenu ce qu'il a été. Donc Vauban, je m'attache beaucoup à raconter le côté humain du personnage. Vauban est surtout connu, surtout dans la région ici, pour ses fortifications, tout le dispositif de défense de Rochefort, qui commençait d'un côté sur l'île de Ré, de l'autre côté Oléron, qui est énorme. C'est bien, je le raconte, mais c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est Vauban qui, par exemple, est le premier sous Louis XIV à s'être dit « Nous faisons guerre sur guerre, il y a beaucoup de morts, est-ce que nous sommes bien certains d'avoir assez de Français pour continuer à faire la guerre et à cultiver les champs pour nous nourrir ?» Vauban est le premier à se poser cette question qui est pourtant capitale, et du coup a inventé les statistiques de recensement pour déterminer ce qui existe et ce sur quoi on peut compter. C'est un aspect de Vauban dont on n'a pas assez parlé. Vauban est le premier à comprendre que pour faire la guerre et les fortifications, il faut transporter des matériaux, etc. Les routes, ça marche très très mal. Les voies d'eau, les rivières et donc les canaux, c'est beaucoup plus efficace. C'est lui qui va inventer un réseau de canaux et de rivières navigables en France. L'aménagement du territoire, c'est Vauban. L'État laïque, Vauban encore. Lorsque Louis XIV dit l'édit de Nantes, on arrête les protestants dehors, Vauban est le seul à écrire « Majesté, c'est très bien de faire partir les protestants parce qu'ils ne sont pas catholiques. L'ennui, c'est que tout le commerce du Val-de-Loire, c'est eux. 75% de mes ingénieurs militaires sont protestants. L'essentiel de l'état-major de la marine est protestant. S'ils s'en vont, il ne nous reste rien. » Donc, la question de religion, oubliez, ça ne sert à rien. C'est l'état laïque. Et pour terminer, ce qui est à mon sens le plus beau, c'est l'idée de l'impôt sur le revenu. Vauban dit, chaque Français doit payer des impôts en fonction de ce qu'il gagne et qu'il a gagné grâce à l'aménagement du territoire. Actuellement, on est en train de ruiner les paysans parce que ce sont les seuls à qui on puisse prendre beaucoup d'argent. Moyennant quoi, ils décident que ce n'est pas la peine de se fatiguer puisque tout l'argent part en impôts. Il faut que tout le monde paye des impôts, y compris vous, Majesté, y compris tous les nobles, et la somme sera déterminée en fonction de ce que l'on a gagné grâce au pays. L'impôt sur le revenu ne sera mis en application qu'en 1917, parce que ça demandait beaucoup de temps, mais l'idée, c'est Vauban. Et Bougainville, lui, je le présente comme ce qu'il est, évidemment, c'est le premier navigateur people de l'histoire. Il se trouvait que la mère de Bougainville, qui est décédée quand il avait 5 ans, avait deux frères qui étaient très introduits à la cour parce qu'ils y avaient acheté des charges énormes, dont celle des postes. Et l'un d'entre eux, qu'on surnommait Boubou, avait connu la Pompadour quand elle s'appelait Jeanne Poisson. Et Jeanne Poisson, devenue la marquise de Pompadour, était une femme d'exception, d'une très grande intelligence. Elle avait une vision notamment sur la politique internationale qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne dit pas assez. Elle était restée donc fidèle à son ami Boubou, et si Bougainville a pu faire toutes ses navigations et connaître ses avancements, c'est parce qu'il avait la protection de la Pompadour. Maintenant, attention, c'était tout à fait mérité. Bougainville est un garçon qui, à l'âge de 23 ans, écrit un traité de mathématiques qui le fait entrer à la Société des sciences anglaises, tellement les Anglais sont admiratifs de son travail. Ça, on ne peut pas lui enlever. Bougainville est celui qui a l'idée, puisque la France est chassée du Canada, il était aide de camp de Montcalm, il a mené un baroud extraordinaire, donc la France perd le Canada, il rentre en France, il est prisonnier sur parole, donc il n'a plus le droit de combattre, et il cherche un endroit où on pourrait reconstituer le Canada, ce seront les îles Malouines, donc en Amérique du Sud, les Falklands, où il va créer de toutes pièces une colonie qui servira aussi de point de départ pour la recherche du continent austral. Bougainville, c'est ça. Alors, on connaît Bougainville pourquoi ? Bougainville, la fleur. On connaît son tour du monde et surtout son escale à Tahiti, qui nous a donné sur Tahiti des idées absolument fausses. Il est resté en tout et pour tout 9 jours à Tahiti. Son journal est absolument honnête, mais en France, des gens ont repris ce qu'il racontait pour l'exagérer, en faire quelque chose de tout à fait différent. Donc la licence tahitienne, non, c'est juste une sexualité comprise différemment. Mais ce n'est pas une licence pure. Le Tahiti, mythe du bon sauvage, c'est la société la plus inégalitaire qui existe. Gentillesse, non, il se massacre de façon épouvantable. Bougainville le dit, le raconte dans son journal, mais les philosophes en font tout à fait autre chose. Donc c'est le Bougainville que j'ai raconté.
Vous n'êtes pas historien, mais vous aimez quand même les trucs d'histoire un petit peu.
Je ne suis pas historien, mais je suis journaliste. Donc je vais enquêter sur des événements pour raconter les événements. Que les événements soient contemporains ou remontent à plusieurs siècles, c'est le même métier. Il s'agit d'enquêter, de trouver les gens qui savent, de confronter les informations des gens qui savent, de découvrir ce qui est contradictoire, ce qui ne l'est pas, ce qui est logique, ce qui l'est moins, pour aboutir à une compréhension aujourd'hui. Et puis surtout, c'est reprendre ce que l'on croit savoir pour le re-raconter, étant entendu que l'histoire, il faut la re-raconter tous les 20 ans. Tout simplement parce que la façon de percevoir les mêmes événements change. Et ça peut être de façon très subtile, quelquefois, mais quelquefois, ce sont des choses qui sont tout à fait différentes. L'année prochaine, je présenterai ici Arctique et l'histoire secrète, qui va sortir dans 3 semaines en librairie. Là, je re-raconte des choses que l'on connaît parfaitement, comme Perry et Cook au pôle Nord. Ce que je raconte, moi, c'est pourquoi il a fallu un vote du Congrès américain pour décider que Perry a été au pôle Nord et non pas Cook, alors que ni l'un ni l'autre n'y ont été. En revanche, ce que j'explique, c'est comment et pourquoi ce mensonge s'est développé et a pris cette importance politique. Et ce sont des choses qui, pour le moment, n'avaient pas été dites comme il le fallait, c'est-à-dire racontées avec tous les tenants et aboutissants mis bout à bout.
Et donc, si les auditeurs ils veulent se procurer vos livres dans les librairies...
Les anthologies sont aux éditions Omnibus. Oui. Le libraire le recevra sous 3 jours, parce que c'est bien distribué. Gallimard Folio, pareil. Et Vuibert, pareil. D'accord. Donc il suffit de demander Dominique Lebrun et les titres au bout. On le trouve tout de suite sur l'ordinateur du libraire, sur le réseau qu'il a, et c'est livré immédiatement. Aucun souci.
Ok, maintenant mieux.
Et ben, c'est parfait, je vous en prie.